Les hommes aux semelles devant. Une émission d'Odémilie Judaïque. Aujourd'hui, les clandestins hispaniques aux États-Unis. Vue du ciel, la baie de San Diego, sur la côte ouest des États-Unis, a de quoi surprendre. Au beau milieu de la longue plage de sable, s'élève un grillage de 4 mètres de haut et qui plonge loin dans la mer. Nous sommes ici à l'extrémité de la frontière mexico-américaine, la frontière la plus traversée au monde, placée sous haute sécurité depuis qu'en 2006, George W. Bush a décidé d'ériger un mur de défense contre l'immigration illégale. Vue du ciel, la ville de San Diego, elle aussi, a de quoi surprendre. Elle a l'air de s'étirer par-delà la frontière, jusqu'en territoire mexicain. Mais en face, c'est Tijuana, la capitale mondiale du crime. Les villes jumelles, comme San Diego-Tijuana, ont vu le jour avec les accords de coopération économique passés entre les deux pays. Peu à peu, les jumelles sont devenues siamoises. Elles semblent vouloir fusionner pour engendrer une nouvelle région, une nouvelle nation, qui sait. Les uns l'appellent déjà Amexica, les autres Mexamérica. Mais qu'importe, ce pourrait bien être l'Eldorado pour les Latinos qui fuient la pauvreté, les trafics et la violence. Avec Ada Savin, américaniste, sillonnons le désert américain à la recherche des Latinos morts, faute d'avoir jamais trouvé le Nord.
Me llamo Héctor. Héctor María de la Soledad Lázaro González. Je suis apothèque du pueblo de Guelatao, dans l'état de Oaxaca, au sud du Mexique. César et moi, on se connaît depuis les lycées et on a décidé de partir ensemble pour El Norte. On a pris le bus et au bout de 3 jours de voyage, on est descendu à Altar, à 80 km de la frontière. C'est une petite ville où il n'y a que des migrants et des narcotrafiquants. En dehors de la vieille église qui date de l'époque des missions, il n'y a rien à Altar. Tout juste un arbre, une station-service, une agence Western Union, quelques petits commerces et beaucoup de chambres à louer. À peine sortis du bus, les coyotes nous sont encerclés. Ils racolaient comme les filles qui portent des noms américains sexy. « Salut, tu veux L.A., Atlanta, Nueva York? Elles sont à toi? Et toi, c'est Miami qui te plaît? Todo es posible. » Autrefois, le Texas, la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Nevada, le Colorado, tout ça, c'était le Mexique.
La voie classique, si je peux dire, de passage du Mexique vers les États-Unis est en fait un étroit qui s'appelle en espagnol « el paso del norte », c'est-à-dire le passage du Nord. Et c'est cet endroit-là qui a été découvert en 1659 par des explorateurs espagnols, évidemment, qui a servi de passage principal pour les migrants mexicains de la première moitié du XXe siècle. Par la suite, il y a eu d'autres points de passage. Il passe entre l'actuelle Ciudad Juárez, c'est une très grande ville du côté mexicain, et du côté américain, la ville plus nouvelle s'appelle El Paso. Il y a eu aussi Brownsville, Matamoros. Enfin, une partie de la frontière est terrienne, si je peux dire, hein, et l'autre est, bien sûr, depuis 1948, celle démarquée par le Rio Grande, qui est appelé Rio Bravo, au Mexique d'ailleurs. Hein, la même rivière a deux noms. Donc cette rivière, il y a beaucoup d'endroits de cette rivière où l'eau n'est pas profonde et donc les migrants pouvaient passer assez tranquillement pendant certains temps en marchant dans l'eau, parfois avec leurs enfants sur le dos. Pendant les temps où c'était plus facile de passer, il y avait beaucoup de gens, ces soi-disant mojados, les wetbacks, les dos mouillés, qui étaient dos mouillés parce que il y a juste un tout petit peu d'eau sur le dos. Est-ce que ils pouvaient passer, marcher dans la rivière?
Le long de la frontière, on peut lire sur les panneaux que le gouvernement a installés. Cuidado. À côté, des images des serpents, des scorpions et des crânes. Mais quand tu regardes vers le nord, plus loin que le sable, les rochers et les buissons d'acacia, vers ce mur de montagne où ne poussent que des cactus, tu crois encore que tu peux réussir car Qui a envie de faire demi-tour une fois arrivé si loin?
La frontière du côté de Texas, elle était déjà déterminée, on se rappelle, en 1845. Matamoros, Texas, presque toute la partie terrienne était déterminée. Aujourd'hui, il y a un mur dont on va parler, mais avant le mur en béton et en barbelé, il y avait ce que les écrivains et les gens appelaient le tortilla curtain, c'est-à-dire le rideau qui fait comme une tortilla. Une tortilla, c'est ce pain mexicain, c'est comme une crêpe, si vous voulez, avec des petits trous. Donc, il y avait comme un clôture. Donc c'était assez facile de passer pendant longtemps. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Et puis c'est une frontière énorme qui fait 3000 km. Certains politiciens aujourd'hui voudraient faire un mur tout au long de cette frontière de 3000 et quelques km. C'est pratiquement impossible, c'est énorme.
Aïe, 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 cantai, no llores, porque cantando se alegran cielito lindo,
gran cielito lindo los corazones.
On a un proverbe quand tout va mal. Canta y no llores. Chante, ne pleure pas. Parce qu'au Mexique, la souffrance est un art et les occasions de le pratiquer ne manquent pas. Rien n'a changé en 5 siècles. Il y a toujours une poignée de chingones qui tiennent tout. Et nous, on se dispute les miettes. Tellement de jeunes sont déjà partis. J'ai vu de mes yeux el pueblo devenir comme une coquille vide, rongée de l'intérieur. Maintenant, le seul moyen pour s'enrichir au Mexique, c'est de tricher ou d'enfreindre la loi. Mais pour les gens comme nous, il n'y a que el norte et le dollar américain. Traverse le village aujourd'hui, tu croirais qu'il y a eu une guerre ou une épidémie. Il ne reste que des gosses, des vieillards et des animaux.
Nogales, côté mexicain, la frontière officielle. Pour ceux qui ont leurs documents en règle, passer aux États-Unis, c'est l'affaire de quelques minutes, une heure tout au plus. À quelques mètres de là, en contrebas, l'autre passage, celui des clandestins. Il suffit d'attendre quelques minutes et un petit groupe apparaît. Mais les gardes-frontières américains sont là, tout près. Les chances de réussite sont infimes. Aujourd'hui, pour avoir de bonnes chances de franchir illégalement la frontière, mieux vaut aller à Altar, dans le désert de Sonora. C'est là que les candidats à l'immigration ont rendez-vous avec leurs passeurs.
C'est pas 3 heures qu'il faut pour traverser le désert. Les passeurs vous mentent. C'est 3 jours. Alors, pensez à prendre beaucoup d'eau. C'est impossible d'endiguer ce flot. Le problème dépasse le Mexique. Ça concerne tous les pays d'Amérique centrale. Finalement, le Mexique n'est qu'un tremplin pour passer de l'autre côté.
Le fait d'avoir des villes jumelées comme Brownsville, Matamoros, ou Ciudad Juárez, El Paso, ou Laredo, Nuevo Laredo, ou Tijuana, San Diego, est un phénomène paradoxal, puisque d'une part, ce sont des villes que séparent un mur presque infranchissable, mais d'autre part, entre ces villes, il y a aussi des gens qui circulent librement. Ce sont des villes qui collaborent en économie, en commerce, parmi lesquelles, enfin, entre lesquelles il y a une vie, il y a la vie qui continue. Ce que j'ai vu du côté de El Paso, Ciudad Juárez, était extrêmement étonnant, parce qu'il y avait la ville, à l'intérieur de la ville, il n'y a pas de barbelé, il n'y a pas ça. Mais dès qu'on sortait un peu, ce n'est pas une grande ville, El Paso, il y a des collines. Sur les collines, on voit à droite et à gauche des fils barbelés et tout l'accoutrement. Là, c'est extrêmement étonnant. Hein. Comme si la ville était une enclave. Je pense que cette région au nord de la frontière, en fait d'ailleurs, c'est difficile parce que borderlands, il y a ce terme anglais, borderlands, qui veut dire zone frontalière, et qui donc inclut le nord et le sud. Et il y a beaucoup de Mexicains qui traversent cette frontière légalement tous les jours pour aller travailler. Tout n'est pas illégal. Mais toute cette zone-là, il y a une femme écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle Borderlands, La Frontera, The New Mestiza, La Nouvelle Mestiza, Gloria Anzaldúa, parle de cette zone comme une zone hybride, une zone où, en fait, il y a une troisième culture peut-être qui est en train de naître, ni tout à fait anglo-saxonne, ni tout à fait latino ou mexicaine, mais quelque chose entre. Porfirio Díaz, qui a gouverné le Mexique à la fin du 19e siècle, c'était un dictateur. Il a ce mot qui est resté dans l'histoire. Pauvre Mexique, si loin de Dieu, si proche des États-Unis. Il se rend compte quand même du décalage de force, hein, armée, économique et tout, et ça va rester pendant pas mal de temps, hein, cette sensation d'être inférieur, en quelque sorte, du point de vue de la force économique, politique, militaire, par rapport aux États-Unis. C'est le grand voisin du Nord qui fait ombre au Mexique. La cause principale de l'immigration constante des Mexicains vers les États-Unis depuis la Révolution et à ce jour, est économique. Alors, du point de vue économique, le Mexique, grand pays, mais pays à caste, pays où il y a une petite couche de riches, il y a extrêmement beaucoup de corruption, hein, et qui dit corruption dit que si on veut arriver à quelque chose, il faut payer, et quitte à payer, beaucoup de Mexicains pauvres préfèrent passer de l'autre côté de la frontière et essayer de travailler honnêtement et faire de l'argent là-bas. Il n'y a pas que le Mexique. Le Mexique est aussi un point de passage pour des immigrés ou des migrants qui arrivent aux États-Unis, comme le Honduras, El Salvador, Nicaragua, pour m'en mentionner aussi, le Chili, le Pérou, il y a des Latino-Américains. Tout le monde doit passer par le Mexique. Pour quelles raisons? Il y a des raisons politiques. Dans d'autres pays, il y a des dictatures, hein, et ainsi de suite. Les cas de figure sont différents. Et les risques, le mortement de la précarité de ces gens, et donc les risques qu'ils sont prêts à endosser pour arriver déjà au Mexique et pour traverser le Mexique, ce sont des distances énormes. Et ils le font sur un train. Et c'est au péril de leur vie que ces gens essayent donc d'arriver El Norte, donc au nord.
Leur route commence tout au sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala dans les Chiapas. C'est d'ici que part le train de marchandises qui remonte vers le nord, vers les États-Unis. Les migrants l'ont surnommé la bête. Les adolescents ont quitté le Salvador, le Honduras, le Guatemala quelques jours plus tôt. Ils sont venus à pied ou en bus pour rejoindre Palenque, une petite ville installée le long de la voie de chemin de fer. Le train de marchandises, c'est le moyen de transport le plus rapide et le moins cher, le plus dangereux aussi.
J'espère que ça ne va pas être trop dangereux. Surtout, je sais qu'on va devoir rester éveillé tout le temps quand on sera dessus. Parce que si tu dors, tu tombes. Et là, il va vraiment falloir qu'on soit bien éveillé tout le temps.
L'immigration se passe en plusieurs étapes. Si c'est un autre pays, arriver au Mexique. Si c'est le Mexique, partir du sud du Mexique vers la capitale, énorme, grouillante, difficile, mais on peut travailler quand même. Et si ça marche pas là-bas, on va au nord du Mexique, vers les maquiladoras. Maquiladoras, ce sont ces entreprises américaines délocalisées qui profitent de la main-d'œuvre à moindre coût au Mexique. Donc, c'est pas un CDI, c'est pas une solution finale, si je peux me permettre. C'est mieux que le sud du Mexique, c'est mieux que El Salvador, mais l'étape ultime est aux États-Unis. Et ce qui les amène, c'est le gain. C'est pas du tout the American dream, c'est pas le rêve américain du début du 20e siècle, on est au début du 21e, et pour les Mexicains, ça n'a jamais été vraiment le rêve américain. Pour eux, ils sont très bien chez eux, si ce n'était la pauvreté. Hein. Ils ont d'ailleurs la nostalgie de leur pays, hein. Ceux qui habitent aux États-Unis, il y a Rodriguez, l'écrivain, qui dit « ma boussole pointe toujours vers le sud », alors que c'est-à-dire sa nostalgie de Mexique, alors que la boussole des Mexicains qui veulent gagner du pognon aux États-Unis, elle pointe vers le nord. Hein.
C'est César qui a insisté pour monter dans ce camion. Moi, j'ai compté traverser la frontière à pied parce que ça coûte moins cher. Mais César avait juré sur la tête de sa mère que jamais il n'essayerait de traverser à pied. Son frère aîné, qui est maintenant en Californie, a bien failli mourir dans le désert. Il lui a raconté qu'il avait vu des cadavres comme ceux qu'on voit dans les catacumbas, avec la bouche ouverte pour hurler et la peau tendue comme celle d'un tambour. Le visage plein d'épines de cactus, parce que quand la soif te rend fou, t'essayes de manger un cactus et la douleur ne t'arrête pas. Quand j'étais jeune, les prêtres du pueblo nous lisaient les textes de la vallée des ossements. À l'époque, je ne savais pas qu'il existait vraiment et que ces ossements étaient les nôtres. Mais Dieu, que peut-il faire à part regarder en rabattant lui aussi son sombrero sur ses yeux?
Ils n'ont jamais été en fait sujets, les Mexicains, à des quotas. Il y a des accords qui se mettent en place entre le gouvernement mexicain et le gouvernement américain, mais ces accords interviennent seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, commence en 1942. Il y a beaucoup d'hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale qui sont sur le front. Du coup, ils ont besoin de main-d'œuvre saisonnière, surtout en Californie, où il y a beaucoup de fruits et de légumes, comme chacun le sait. Et pourquoi pas faire venir donc les travailleurs mexicains saisonniers, s'instaure en fait une période dans le rapport entre ces deux pays où ce qui prédomine, c'est la politique de la porte tournante. C'est quoi cette politique de la porte tournante à l'égard des Mexicains américains? Dès qu'ils ont besoin de travailleurs, la porte s'ouvre et quand ils n'ont plus besoin, ils sont expulsés. Donc c'est une population de migrants. La plupart n'arrivent même pas à s'établir. Donc, en 1942, pendant 20 ans jusqu'à 64, il y a ce programme officiel qui est établi, il s'appelle Bracero, du mot brazo, bras, il y a besoin de bras. Ils ont besoin de main-d'œuvre, les Mexicains sont les bienvenus. Ils n'ont plus besoin, on les met dans des camions et on les expulse.
Les coyotes pensaient que ce serait une bonne idée d'utiliser un camion-citerne pour traverser la frontière. Contre 30 000 pesos chacun, ils nous ont promis qu'on passerait rapidement en Arizona. 3 heures maxi, garantizado. La citerne n'a pas d'ouverture. Alors pour nous faire entrer, il a fallu découper l'atoll avec un chalumeau. Ensuite, les coyotes ont refermé le trou avec un fer à souder et donné un coup de peinture par-dessus pour ne pas éveiller les soupçons. Et sur le côté, il y a une inscription. Agua para uso humano. Eau potable. Même si le camion est arrêté et fouillé par la migra, personne ne peut deviner qu'on est caché là-dedans.
À l'époque, il était plus facile de passer. On faisait par étapes, comme je disais, le passage vers le nord. On essayait de se mettre en contact avec un passeur. Et ce passeur demandait une certaine somme d'argent si c'était, disons, du côté de Los Angeles. San Diego, c'est le moins cher. C'est périlleux parce que c'est très près de la frontière. Il faut s'éloigner quand même. Los Angeles, un peu plus cher déjà. Donc, il y avait des sommes à payer selon ce qu'on voulait. Donc, ça se passait à peu près comme ça. Rarement, je crois que des gens, surtout ceux qui avaient une famille, s'aventuraient tout seuls, sans coyote. Quand même, il y avait une assurance. On payait, il y avait une assurance d'être amené. Si on payait encore plus cher, on était amené beaucoup plus loin dans le pays, très loin des yeux de la migra. La migra, c'est la police de frontière du côté américain. Donc, si on est attrapé, on peut être renvoyé. Et puis, le lendemain, il y en a qui retournent quand même essayer à nouveau de passer. Donc, vous voyez, c'est le chat et la souris. Parce qu'il y a des gens qui meurent quand même, il y a le désert, il n'y a pas que la rivière qui n'est pas profonde, il y a aussi le désert qui les guette. Le désert peut être mortel, comme chacun le sait, et l'a été pour de nombreux Mexicains et autres Latinos qui ont laissé des croix. Ces croix sont devenues, avec leur nom, des lieux de mémoire où la famille vient. Mais ça n'empêche pas quand même le désir de venir.
En plus de César et moi, il y a 13 autres personnes dans la citerne. On est tous du sud. Il fait si noir qu'on a l'impression d'être aveugle. On a du mal à s'asseoir sur le métal froid et les parois arrondies. On est tellement serré qu'on se bouscoule sans arrêt. Au début, pendant une heure peut-être, la route était en bon état, comme si on avait pris l'autoroute pour El Norte. Mais elle est devenue de plus en plus défoncée. On était projetés dans tous les sens à l'intérieur du camion, comme des poulets qui partent à l'abattoir. Tout à coup, on s'est arrêté brutalement, comme si on était entré dans un mur. J'ai entendu des têtes et des corps s'entrechoquer. Il y a eu des cris, des jurons, puis le silence. Tout le monde retenait son souffle, tendait l'oreille. Puis, tout bas et très vite, chacun s'est mis à prier la Vierge de Juquila, la grande protectrice des voyageurs et des pèlerins. Dios, sálvanos. Virgencita, ayúdame. Jesús mío, misericordia. Adorada Guadalupe, llena de gracia. Ave María Santísima. Estamos jodidos.
Quand les migrants passent la frontière, s'ils la passent comme c'est souvent le cas au Texas ou en Californie, ils vont rencontrer tout de suite des connaissances ou même de la famille parce qu'ils vont se diriger, ils sont au courant, ils sont en relation, ils se parlent avec l'autre côté de la frontière. Donc, ils vont aller dans les barrios ou les colonias, hispaniques par définition, et ils vont être en général bien accueillis par une partie de la famille qui est déjà là-bas, par des amis, etc. Ils vont se trouver dans un cocon, si vous voulez, où ils vont parler leur langue, l'espagnol. Ils vont se sentir comme chez eux. Mais enfin, ça peut durer un certain temps, parce qu'il faut quand même sortir de ce cocon pour trouver un travail. Alors, très souvent, ce travail va être donné par quelqu'un de la famille qui a déjà, par exemple, un chantier sur lequel il travaille, donc il peut ramener quelqu'un de nouveau. Alors, cette situation-là, où le nouveau migrant arrive dans un barrio chez les siens, pour ainsi dire, n'est pas nouvelle. Ça s'est passé comme ça traditionnellement. C'est un réconfort pour eux, mais c'est aussi un frein pour l'assimilation.
Quand les Grecs se cachaient dans leur cheval, ils voulaient attaquer Troie. Et quand les terroristes se cachaient dans des avions, ils voulaient attaquer le pays. Mais quand les Mexicains se cachent dans un camion, qu'est-ce qu'ils veulent ? Cueillir des salades et tondre ta pelouse.
Ces gens sont évidemment clandestins pendant un certain temps, pour certains, toute leur existence aux États-Unis, jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Et c'est un risque, évidemment. Et il y a une loi qui a été passée par Reagan, d'ailleurs, en 86, je crois, une loi qui faisait de payer des amendes non seulement à celui qui est illégal, mais à celui qui l'emploie. Cette loi, elle n'est pas toujours efficace, elle n'a pas toujours été observée. C'est que les Américains, il faut croire, ont besoin de main-d'œuvre et ils sont prêts à fermer les yeux sur des gens comme ça. Le problème, c'est est-ce qu'on les attrape ? Qu'est-ce qu'on fait si on les attrape ? Si on les attrape, il y a déjà la loi du sol. Hein. Les Mexicains, américains, même illégaux, si la femme accouche aux États-Unis, l'enfant est américain. C'est une situation assez spéciale. En général, les États-Unis, l'immigration, c'est un pays énorme. C'est un pays énorme. On peut perdre sa trace facilement. On passe d'un État à l'autre, on ne sait plus qui on est. On change de nom. Autre État, autre loi. Il y a des gens qui vivent pendant des années clandestinement aux États-Unis.
En espagnol, attendre et espérer sont un seul et même verbe. Esperar. Déjà plus de 30 heures qu'on est là. Me revient en tête la scène d'un film où le câble de l'astronaute est coupé et où on le voit s'éloigner dans l'espace, devenir de plus en plus petit, sans pouvoir rien faire.
Mes chers compatriotes, nous sommes et nous serons toujours une nation d'immigrants. Nous avons tous été à un moment un étranger, et que nous ayons nos racines ici, ou que nous ayons traversé l'Atlantique, le Pacifique ou le Rio Grande, nous sommes là uniquement parce que ce pays nous a accueillis. C'est le pays que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont construit pour nous. C'est la tradition que nous devons protéger. C'est l'héritage que nous devons laisser à ceux qui nous succéderont.
Ils sont aujourd'hui 11 millions de sans-papiers aux États-Unis. dont 3,5% de la population totale. De ces 11 millions, 7 millions sont mexicains. Donc c'est la première nationalité au sein des clandestins. Ouais. Alors la promesse de régularisation vient de Obama avec le projet de loi sorti en 2012, qui s'appelle Dream Act, qui fait bien sûr référence à American Dream, le rêve américain, hein, un projet de loi auquel ils peuvent encore rêver les Mexicains américains, puisque depuis 2012, il n'a pas encore vraiment, il a été voté et recalé, et la situation n'est pas encore claire. Obama l'a promis, Hillary Clinton, en pleine campagne maintenant, le promet aussi. Surtout, il s'agit d'une loi qui prévoit la régularisation de 5 millions de personnes, c'est presque tous les illégaux mexicains, hein, américains, les parents d'enfants nés américains, parce que les enfants sont nés américains, mais aussi leurs parents devraient bénéficier, présents depuis plus de 5 ans dans le pays, au casier judiciaire vierge évidemment, qui payent des impôts évidemment, avec un permis de travail de 3 ans renouvelable. Mais bien, c'est du côté des républicains que le bât blesse et que donc finalement la loi n'est pas encore passée.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios.
Aujourd'hui, il y a 52 millions d'hispaniques aux États-Unis, hispaniques, donc pas seulement mexicains-américains, hein, tous les autres. C'est le premier groupe ethnique aux États-Unis avant les Noirs américains qui jusqu'à récemment étaient le premier groupe ethnique. 64% des hispaniques sont mexicains-américains. Depuis 2014, les latinos en Californie, et ça c'est une tendance qui était prévisible et qui se confirme, les latinos en Californie sont plus nombreux que les blancs. 15 millions de latinos en Californie et seulement 14 millions de blancs. Ils sont non seulement les plus nombreux maintenant, mais c'est une population jeune par rapport à une population vieillissante. Les blancs en Californie, grande majorité sont des seniors, donc la population qui travaille vraiment, hein, qui fait marcher l'économie en Californie, sont les latinos. Le poids démographique des latinos, des mexicains américains et des latinos en général, est pour beaucoup dans le vote qu'ils vont donner à tel ou tel candidat. Donc ils vont être courtisés. Enfin, Trump les courtise à sa façon. On sait ce que Donald Trump a promis, entre guillemets. Hein. Il a promis un mur total, non seulement total, mais payé par les Mexicains. Ça, c'est le comble de la perversion. Et il a commencé par insulter les Mexicains, les traiter de voleurs, de violeurs, de tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'Américains qui n'arrivent pas à imaginer comment quelqu'un comme lui ait pu passer cette frontière.
Quand le soleil se levait ce matin, les parois de la citerne sont devenues brûlantes. Autour de nous, c'est le désert. Mais à l'intérieur, l'air est humide, comme dans la jungle. Et avec la chaleur, viennent toutes nos odeurs. Un mélange de sueur et surtout de peur. Dans la citerne, on ne meurt pas, on s'évapore. Le manque d'eau et l'air vicié s'insinuent en nous comme un brouillard, en enlevant un peu de vie à chaque respiration. Je comprends maintenant que l'eau est toujours bénie.
Merci à Ada Savin, professeure émérite de civilisation américaine à l'Université de Versailles et qui a notamment dirigé l'ouvrage collectif « Ville d'exil » paru chez L'Harmattan en 2003. Merci également à David Doran Camacho pour ses lectures librement adaptées « Des enfants du jaguar » de John Vaillant, édité en mai dernier par Buchet Chastel. Les Hommes aux semelles de vent est une émission d'Odémilie Judaïque, préparée par Julie Briand, enregistrement Valérie Lavalard, mixage Éric Boisset. Samedi prochain, vous avez rendez-vous avec les Amazones, ce peuple de femmes guerrières qui n'en finit pas de fasciner. Mais d'ici là, belle semaine à tous sur France Culture.